Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
On a tous vu les images des saccages, du grabuge, mais c'est vraiment un euphémisme qui a eu lieu en fin de semaine dans le vieux Montréal, des vitrines de restaurants, de commerces saccagés. Alors imaginez quand vous voyez ces images-là et que c'est pas juste un commerce, mais c'est votre commerce qui a été saccagé. C'est ce qui est arrivé en tout cas à Elena Lorero. Elle est propriétaire du restaurant qui porte son nom dans le vieux Montréal, qui a été victime de saccage. Madame Lorero, bonjour.
Bonjour Madame Durocher.
Écoutez, je connais votre restaurant, beaucoup de gens apprécient la cuisine que vous faites, que ce soit au Elena, que ce soit au Portus 360, que ce soit dans vos différentes interventions dans les médias. Donc, racontez-nous ce qui s'est passé et comment vous avez appris, comment vous êtes rendu compte que votre restaurant dans le vieux avait été saccagé.
Mais merci beaucoup pour ces beaux mots, ça nous fait vraiment chaud au cœur à ce moment ici. C'est dimanche soir, j'ai reçu un appel, j'étais à la maison et j'ai reçu un appel avec une photo d'un client que c'est une amie qui habite juste à côté d'où Elena et m'a envoyé une belle photo avec ma vitrine cassée. Et effectivement, je me suis rendue sur place tout de suite. Il y en avait encore beaucoup de gravures, beaucoup de monde et c'était vraiment le gros party.
Oui. Et en plus, dimanche soir, c'était le début du couvre-feu, donc vous vouliez aller protéger votre commerce. En même temps, c'était pas évident parce qu'il y avait un couvre-feu à respecter. Qu'est-ce que vous avez pu faire une fois que vous êtes arrivé sur place et que vous avez constaté les dégâts?
En effet, on a hésité parce que je me posais la question. J'ai envoyé mon garçon avant parce que Daniel, il travaillait à RDS, il finissait son quart de travail. Et je l'ai dit de passer voir vraiment qu'est-ce qui se passait parce que je venais d'avoir la photo. Mais j'étais trop énervée, trop triste pour l'événement et j'ai décidé de partir de la maison. Et c'est là quand je suis vraiment arrivée. On a pris la mesure d'appeler sous le moment où on savait même pas quoi faire. Il faut que tu réfléchis pendant 2 secondes, voir que c'est quoi la mesure à prendre. C'est là que j'ai appelé le propriétaire de la bâtisse et mon voisin à côté que c'est le même propriétaire. C'est le cuisier, les vêtements pour hommes. Tout était cassé aussi. Alors, le propriétaire, il s'est rendu très vite avec son équipe. Ils ont placardé nos fenêtres, en effet. Mais il y avait beaucoup de mouvements encore. Évidemment, ils sont posés la question parce que le couvre-feu était pour 8 heures. On était vraiment énervés de partir de chez moi à 8 heures quand il y avait, pas à 8 heures, j'ai parti de chez moi. C'est comme 9h05 à peu près. 21h05 du soir. Et c'était un gros stress d'arriver chez moi et voir qu'il avait cassé ma fenêtre et j'ai une grosse roche en plein milieu de mon restaurant. J'avais la couverture de la poubelle en face qui s'est ramassée. Bien, ils ont ramassé, l'envoyé à travers ma fenêtre. C'est sûr que c'est triste qu'on n'avait pas besoin de vivre ça à ce moment-là, que déjà qu'on avait tout ce qu'on passe. Je pense qu'on méritait pas ça et c'est un petit peu un message contradictoire que c'est ces petits jeunes voyeux envoyaient que, dans la rue, qu'est-ce que j'entendais crier, c'est ouvrir les restaurants, ouvrir les bars, mais ils étaient tout en train de nous casser les portes et les fenêtres, alors je sais pas c'est quoi ce message-là.
C'est un petit peu contradictoire de dire ouvrez les restaurants, mais en fait, vos restaurants sont fermés et en lançant des poubelles et en lançant des roches dans vos vitrines, ils font juste vous mettre des bâtons dans les roues.
C'est vraiment ça. C'était très, très, très difficile pour nous. Sérieusement, c'est vraiment un message contradictoire. Et c'est comme j'ai dit, on regardait ces jeunes-là. C'était la plupart, c'est des mineurs. C'est vraiment triste. Je me demande si le premier ministre avait pris la décision de fermer les écoles, s'il aurait réagi de la même façon.
Ah, bonne question. Très ça, bonne question. Oui. Oui.
C'est vraiment malheureux de dire ça et c'est vraiment triste, mais c'est comme ça que je me sens et je me sens vraiment attaquée, je me sens très tâchée parce que je pense qu'on devrait faire tous notre part, on devrait être solidaires Et on devrait se donner la main parce qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Je pense qu'avec le système de vaccination, ça se passe très, très bien. Et je pense qu'on achève, qu'on pourrait ouvrir bientôt, que la ville de Montréal est en train de nous faciliter quand même la vie pour se faire des permis de terrasse. Je pense qu'on pourrait quand même ensemble arriver très bientôt avoir un été un petit peu plus joyeux. Et c'est pas comme ça qu'on va arriver. Déjà qu'on est tellement dans le rouge, je pense que c'est vraiment la cerise sur notre gâteau qui nous manquait à ce moment-là.
C'est bien dit. Et évidemment, comme chef, Elena, vous utilisez une métaphore de de gâteau. Mais pour rester dans les métaphores, la pilule a été plutôt difficile à digérer depuis un an. Ferme, ouvre, ferme, ouvre. Vous dites que vous êtes déjà dans le rouge. Comment vous avez réussi depuis un an, depuis le début de la pandémie, à survivre financièrement, Madame Loureiro?
Ben, très difficilement, comme tout le monde. C'est parce qu'ici, on a de l'aide gouvernementale du gouvernement fédéral, parce que si ce ne serait pas ça, on n'arriverait jamais et c'est impossible. Il n'y en a aucun commerce qui serait capable de vivre si on n'aurait pas de l'aide financière pour les salaires et pour les loyers, mais surtout pour les loyers. J'ai continué à faire le take-out parce que je voulais absolument garder au moins mes sous-chefs, mes cadres les plus proches de moi. Avant de la fermeture du début, j'en avais 143 employés. Alors, à ce moment ici, j'ai garde 4 avec moi. Alors, c'est tout ça.
Attendez deux secondes. Vous êtes passé de 140 à 4 employés. Vous avez mis à la porte 136 personnes.
143 employés qu'on avait et j'ai 4 présentement qui travaillent parce que je fais du take-out. C'est ça ma réalité. Effectivement, qu'on se pose beaucoup de questions pour la réouverture, comment on va réouvrir. Et ma grosse crainte et mon inquiétude, ça serait même pas les 2-3 prochains mois quand on va nous laisser ouvrir. C'est par après comment on va se passer. C'est le moment que le gouvernement il nous lâche, qu'il il nous donne plus la main, nous tient plus la main. On va tous à la dérive. Il y a ceux qui vont couler, il y a ceux qui vont continuer à survivre. Mais moi, je me pose beaucoup de questions comment on va s'en sortir. C'est l'avenir que c'est compliqué. Et tous ces employés-là, ils avaient des obligations, ils avaient des familles, ils avaient des loyers, ils avaient des hypothèques, et que beaucoup d'autres, ils sont dirigés vers d'autres métiers, faire d'autres choses pour payer leurs obligations. Et je me demande où est-ce qu'on va aller chercher le staff. Ces gens-là, ils ont tout un autre mode de vie présentement.
C'est ça, ils ont choisi de se réorienter ou de faire un autre métier. Est-ce que ça va leur tenter déjà de revenir travailler en restauration, ne sachant même pas si ils vont occuper cet emploi-là pour 2 semaines ou pour 2 ans? Ça va être en effet extrêmement difficile à gérer. Je veux juste qu'on revienne un petit peu, vous avez parlé tout à l'heure des terrasses. C'est vrai que la Ville de Montréal a dit que les permis pour les terrasses allaient coûter beaucoup moins cher, donc pour vous aider. Mais en même temps, il y a quelque chose que je ne comprends pas. En Ontario, jusqu'à tout récemment, on permettait l'ouverture des terrasses pour que les restaurants puissent respirer un petit peu. Ça n'a jamais été le cas au Québec. Donc, est-ce que vous voyez à court terme que le gouvernement, la santé publique, permette l'ouverture des terrasses?
C'est une question qu'on se pose. Moi, j'ai commencé mes démarches pour faire... j'ai commencé avec un architecte premièrement que ça me coûte déjà 3 000 $ en partant, même si je ne sais même pas si mon permis va être accepté ou pas. Mais il faut comprendre le risque parce que si on prend pas de risque, on n'avancerait jamais à rien. Mais le permis présentement de la Ville de Montréal, c'est 55 $. Alors, c'est vraiment rien à comparer à un permis normal. Déjà là, c'est très bien. Mais là, s'il va être accepté ou pas, ça, c'est une autre question qu'on se pose. C'est sûr que moi, je ne suis vraiment pas pour l'objectif d'ouvrir des terrasses. On a les salles à manger fermées. Ça nous apporte pas grand-chose non plus. C'est tout un enjeu qu'on va passer à travers, qu'on se pose beaucoup, beaucoup de questions. Une autre question qu'on se demande beaucoup, c'est que la vie, elle a changé. Et pour garder nos employés sur place et pour qu'ils soient motivés à venir travailler, faut qu'il y ait une acquittation salariale qui se passe, que les pouvoirs... ça, c'était un autre enjeu qu'on travaille beaucoup avec le gouvernement, voir s'il y en aurait une facilité de faire les salaires équitables pour qu'elle rende le travail de la restauration plus attrayant, que les gens aient le goût de venir travailler en restauration et qu'ils souhaitent payer et rémunérer comme ça devrait l'être. que le split de pouvoir soit équitable avec tout le staff du restaurant et pas juste vraiment avec le serveur comme il est présentement. Avec les normes qu'on a présentement, le pouvoir c'est avec le serveur et nous on aimerait beaucoup que cet enjeu-là il change pour que nos cuisiniers aient le goût de revenir dans nos cuisines et rendre la gastronomie comme celle était toujours à Montréal. C'est une ville métropole qui était la plus multiculturelle que je connais au monde, qu'on pourrait faire un voyage à travers du monde à Montréal au niveau de la gastronomie. Je trouve qu'elle n'est pas si, elle n'est pas mise assez en valeur à Montréal et qu'on a de la misère à trouver des cuisiniers et des chefs. Par contre, ETHQ forme au moins 1200 par année. Des chefs qui sortent de la THQ et où est-ce qu'ils s'en vont ces jeunes-là dans le marché du travail? Il y a à peu près 4-5% qui restent dans l'industrie. Ça, c'est il y a quelque chose qui ne marche pas.
Oui, c'est un très bon point que vous soulevez, vous avez tout à fait raison, et corrigez-moi si je me trompe, mais vous-même, vous avez fréquenté, donc l'ITHQ, vous connaissez bien l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, vous connaissez bien la question. Oui. Alors, juste une question. Vous avez soulevé quelque chose et je suis très curieuse parce que c'est évidemment, je suis pas restauratrice, donc je ne sais pas comment ça se passe. Pourquoi vous nous dites que le simple fait d'ouvrir les terrasses n'est pas suffisant si la salle à manger n'est pas ouverte? Ça n'est pas intéressant pour vous au point de vue financier d'ouvrir la terrasse si la salle à manger reste fermée?
Non, effectivement, ça serait pas intéressant. Ça serait une petite fraîcheur, mais ça serait pas assez pour nous, évidemment que non. D'accord. Parce que même si j'aurais un permis de terrasse, je pourrais asseoir peut-être 12-15 personnes maximum sur ma terrasse.
À cause de la distanciation. Oui.
Exactement. Mais par contre, ça me prend un minimum d'employés pour opérer ça. Alors, ces minimums d'employés-là, je pourrais faire une autre vingtaine de clients dans ma salle à manger au même temps. Pour le même staff. Oui.
Je veux juste revenir sur les événements de la fin de semaine. Donc, vous nous dites, c'est le propriétaire de la bâtisse, donc, qui est venu, qui a placardé. Est-ce que vos assurances vont vous protéger ou est-ce que vous allez devoir vous payer de votre poche pour un certain nombre de travaux ou de nettoyage ou de est-ce qu'il va y avoir des conséquences financières pour vous après le grabuge et le saccage qui a eu lieu en fin de semaine?
Mais évidemment qu'il va avoir il va avoir des dépenses en arrière de tout ça. C'est sûr que les assurances ils vont payer, mais nous déjà là on a la franchise à payer. C'est sûr que ça va nous augmenter les assurances. Et une vitrine comme la mienne qui a 16 pieds de haut et c'est en vitre double, ça serait pas une affaire de 2 000-3 000 $. On parle d'une couple de 1 000 $, c'est sûr et certain.
C'est décourageant. Écoutez, je veux juste citer votre fils qui a mis sur Facebook un message vraiment très troublant en disant « Bon, ce soir, des petits voyous ont joué aux petits comiques. » Et il dit « Ce soir, avec les larmes aux yeux, je publie cette photo envoyée par des amis. Je pleure de désespoir d'être écœuré. »
C'est vrai qu'on pleurait tous les deux. On pleurait tous les deux. Et quand je suis arrivée, il était déjà là parce qu'il venait de finir son quart de travail. Et il m'a pris dans les bras et on pleurait tous les deux. Il dit, maman, faut que tu t'en pleures pas, tu vas t'en sortir, t'es forte. Mais c'est vrai que la première réaction qu'on a eue, on pleurait tous les deux. C'était dur, oui. Parce que c'est pas nécessaire de faire ça. Pourquoi que nous, on mérite ça présentement? Je pense qu'il devrait être un petit peu plus adulte et de pas faire une chose comme ça. Parce que moi, je trouve que les gens, ils ont droit de manifester. Je n'ai rien contre ça. C'est la casse qu'ils ont faite, c'est le vandalisme qu'ils ont fait, c'est le manque de respect.
Comment on peut faire pour vous aider, pour vous redonner espoir, Elena, à vous et à tous les gens dans le monde de la restauration qui, en plus de vivre une année excessivement difficile, voient cette tuile à leur tomber dessus? Comment on peut vous aider?
Premièrement, je demande à tout le monde de rester chez eux, de faire respecter les normes de la mesure sanitaire et respecter ça et respecter les lois qui nous imposent parce qu'il faut s'en sortir de cette, je m'excuse de dire ce mot-là, de cette saloperie de virus-là qui nous affecte depuis un an. On a besoin de se libérer de ça. Le système de vaccination, il va très, très bien. Alors, On va attendre au mois de juin, on va attendre au mois de mai qu'ils nous laissent ouvrir nos restaurants quand au moins 80 % des gens de la population va être vaccinés. Et j'espère que tout le monde reste à la maison et que tout le monde respecte les normes sanitaires pour qu'on puisse s'en sortir tous ensemble de cette maladie-là qui nous affecte depuis mondialement depuis longtemps. Ça, c'est la première de mes demandes. Restez solidaires avec nous. Aidez-nous à s'en sortir de ça. La deuxième chose, c'est quand on va ouvrir, on vous attend tous. On serait très contents de savoir les Montréalais, les gens d'ici, parce qu'on n'a pas de touristes. Vous le savez très bien que le tourisme Montréal, il fait sa part aussi, mais c'est très difficile pour les prochains mois. Mais il faut faire les démarches pour que le tourisme vienne à notre ville. Il faut rendre notre ville. Faut pas faire le bordel à Montréal. Faut rendre notre ville comme elle était et avoir le calme à Montréal et avoir la plus belle ville dans l'Amérique du Nord comme on a toujours eu. Et venir chez nous et venir manger dans mon restaurant et dans toutes les autres. C'est ça qu'il faut faire.
Madame Loureiro, je sais pas comment on dit bon courage en portugais, mais je sais comment on dit merci. Alors, obrigado. Et bon courage pour la suite des choses. Et merci d'être venu partager votre témoignage aujourd'hui avec les auditeurs, les auditrices de Cube Radio. C'est très apprécié. Puis, vous avez pleuré dimanche. On espère que bientôt, on va pouvoir tous rire ensemble autour d'un bon verre de vino verde. Exactement. Et puis manger des pieuvres et célébrer la vie et la santé.
Oui, et vive la vie. Merci beaucoup. Merci de me donner cette opportunité-là de m'exprimer. Même avec mon accent, j'espère que tout le monde y a souri un petit peu avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup.
Bon, on a très bien compris, puis vous parlez français avec un accent qui est absolument charmant, puis de toute façon, qui serais-je pour vous critiquer votre accent? J'en ai un moi-même. Exactement. Et c'est ça qui fait le charme de Montréal. Merci.
Exactement, c'est ça la beauté de Montréal. Merci beaucoup, au revoir.
Et la beauté du Québec. Merci beaucoup, Madame Loureiro. Donc, Elena Loureiro, qui est propriétaire, entre autres, du restaurant Elena, qui porte son nom, donc, dans le Vieux-Montréal, qui a été victime des petits crétins, hein? Des petits crétins vraiment minables qui s'en sont pris donc à différents commerces dans le Vieux-Montréal en fin de semaine.